Amen. Psaume 81, à partir de verset 2, il est marqué « Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez un chant, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette au début du mois, à la pleine lune, pour le jour de notre fête. » En effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le Dieu de Jacob. Il en a fait une instruction pour Joseph quand il s'est attaqué à l'Égypte. On va s'arrêter là au verset 6 pour le moment parce que nous voulons prendre des morceaux à la fois. Souvenez-vous qu'en Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit quelque chose en chapitre 5 et verset 19, et il nous dit ceci. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Nous sommes dans la même alignée de ce que l'auteur de ce psaume disait et ce que l'apôtre Paul nous disait dans le Nouveau Testament. Et nous sommes appelés à être joyeux, à avoir la joie du Seigneur, à crier avec joie, à chanter avec joie vers le Dieu de notre salut. Voici des impératifs à se réjouir. Des impératifs à se réjouir. Ce sont des commandes et des ordonnances établies pour Israël, pour le peuple de Jacob, pour Joseph, il est marqué, et les générations suivantes. Donc nous avons lu pour toutes ces générations, pour le peuple d'Israël, pour le peuple de Jacob, pour Joseph et pour des générations suivantes, c'est-à-dire nous. Nous sommes des générations suivantes. Et ce que je vois là, la première chose que je vois, c'est une ordonnance à accomplir. Une ordonnance à accomplir. C'est un commandement d'exulter en notre Dieu. Exulter égale éprouver une joie débordante qui se manifeste sans retenue. C'est quelque chose que nous avons vu, par exemple, quand l'équipe nationale de la Belgique, du foot, est revenue de la Coupe du Monde, mais après avoir gagné la petite finale, on va féliciter nos amis français si on a dans l'auditoire aujourd'hui. Mais la Belgique s'est réjouie d'avoir gagné la petite finale. Et donc quand elle est revenue, cette équipe, bon, c'était la joie. C'était la joie partout, c'était la joie dans les rues. Le retour, le jour de leur retour triomphal des Diables Rouges, je cite la presse, l'Avenir, le retour triomphal des Diables Rouges a connu son apogée sur la grande place de Bruxelles devant 8000 supporters en folie, la conclusion d'une journée d'une Coupe du Monde mémorable. Donc voilà, c'était la joie, c'était la fête. 8000 personnes dans la grande place pour se réjouir. Et puis, quand nous regardons dans la Bible, nous voyons des commandements, une ordonnance à accomplir. Le commandement à se réjouir en quelqu'un dans l'Éternel. Mais c'est pas toujours facile. Pas toujours facile parce que ça va à l'encontre de notre propre nature charnelle des fois. Des fois, on a la joie parce qu'il y a des belles choses qui se sont passées et bon, c'est facile à louer le Seigneur, à chanter, à être dans l'allégresse. Mais des fois, c'est plus difficile parce qu'on passe par des moments plus difficiles. Et ça va à l'encontre de notre propre chair de louer quelqu'un au lieu de se centrer sur nous-mêmes. Ce qui est la tendance de l'être humain. Le sentiment peut être très spontané, comme la célébration au moment de la victoire, de la petite finale de l'équipe belge. Mais c'est aussi quelque chose, moi je crois, de planifier. On doit aussi planifier, c'est pas uniquement spontané notre joie, mais c'est quelque chose de planifié. Dans quel sens, Blair? Dans ce sens-ci. L'arrivée de l'équipe nationale après la petite finale, quand l'équipe est arrivée en Belgique, il fallait planifier leur arrivée. Parce qu'on débarque pas comme ça dans les rues de Bruxelles, 8000 personnes, sans planifier un cortège, sans planifier à boucler certaines rues, certaines voirie à établir un chemin à suivre pour l'équipe. C'était quelque chose de planifié. Il fallait établir une route pour cette équipe vers la grande place. Il fallait monter la sono, il fallait assurer la sécurité pour un maximum de 8000 personnes dans un espace, un carré comme ça. Et tout ça pour pouvoir fêter. Donc la fête, c'était planifié. La joie, c'était aussi planifié. C'était spontané, mais c'était aussi planifié. On va se réjouir ce soir avec l'équipe nationale. Et donc, la préparation y était nécessaire. Et c'est ça qui est important, je crois, de voir la préparation est nécessaire aussi dans nos vies. Nous devons nous préparer à rencontrer le Seigneur dans sa présence, par exemple le culte de dimanche matin ensemble. Nous devons nous préparer dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous devons nous préparer à se réjouir en communauté collective, en nous-mêmes bien sûr, mais aussi avec les autres frères et sœurs. Donc c'est une ordonnance à accomplir. Chantez, poussez des cris de joie, entonnez des chants, faites résonner le tambourin, sonnez de la trompette. Mais pour que tout ça puisse avoir un bon son, il faut planifier. Je parie que Benjamin et Clémentine devaient quand même préparer leurs morceaux ce matin afin de nous conduire dans la louange. Donc la préparation du cœur est aussi nécessaire. Verset 5, en effet, c'est une prescription, une règle pour le Dieu de Jacob. C'est une ordonnance à accomplir. Ça, c'est le premier point. Une ordonnance à accomplir. L'adoration et du travail aussi. Des fois, c'est spontané, mais des fois, c'est du travail. Parce qu'on arrive peut-être avec un cœur lourd à cause des situations, des circonstances. Il y a des moments que nous devons dicter à nos cœurs et à nos pensées, que nous allons choisir d'obéir ces instructions bibliques et ce, de manière joyeuse. Alors, je décide, je vais louer le Seigneur, je vais me réjouir en son nom, je vais raconter ses bienfaits par rapport à moi, ma famille et ce qu'il a fait dans ma famille, ma vie entière. Je vais le faire, je décide de le faire. C'est un choix d'obéir à ces consignes bibliques. Chanter, pousser des cris de joie, entonner des chants. C'est une ordonnance à accomplir. Si on continue dans le passage, à partir du verset 6, j'entends un langage qui m'est inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré, je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Meriba. Pause. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette partie de notre psaume? Parce que ça change un peu. Ça change un peu le contexte. J'entends un langage qui m'est inconnu. Mais il parle de quoi là? Mais juste avant, il parlait du fait que Dieu avait fait sortir, la nation d'Israël d'Égypte quand il marcha contre le pays d'Égypte. Donc il a libéré. Donc je crois qu'il est important de lier ce qui vient juste avant pour comprendre ce qui vient après. Alors, il est sorti la nation d'Israël du pays d'Égypte. Et puis, il est marqué, j'entends un langage qui m'est inconnu. Pourquoi une voix inconnue? Mais est-ce que ça fait référence peut-être au fait qu'il faut s'habituer à la voix de l'Éternel. Il faut s'habituer à sa voix. Pourquoi? Parce que pendant qu'ils étaient en esclavage, la nation d'Israël, bon, ils poussaient des cris, des prières, mais est-ce qu'ils entendaient la voix de Dieu? Est-ce qu'ils entendaient? Pas vraiment. On attendait que le moment arrive, que Moïse soit là, et Moïse était le porte-parole de Dieu, de l'Éternel, pour la nation. Donc, il a déclaré ce que lui, il avait entendu. Alors, est-ce que le peuple d'Israël ici est dans cette transition l'esclavage vers la liberté et commence maintenant à entendre la voix qu'il ne connaissait pas avant? S'habituer à la voix de l'Éternel. Puis, on lit encore et on voit encore peut-être des références à cet esclavage. Le verset 7, j'ai déchargé son épaule du fardeau. Est-ce que ça pourrait faire référence au poids de l'esclavage en Égypte? J'ai déchargé son épaule du fardeau. Et ses mains ont lâché la corbeille. Est-ce que ça fait référence de ce temps d'esclavage en Égypte, les paniers de briques, de boue, de terre pour construire chez les Égyptiens? J'ai déchargé son épaule du fardeau. Ses mains ont lâché la corbeille. On parle de la libération, on parle du fait de sortir d'Égypte. Parce que c'est quand même un chant, un poème de joie, d'allégresse. Et on continue, tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Encore cette référence à la libération en Égypte lors du séjour imposé sur cette nation. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu au cœur de l'orage, au milieu de circonstances pénibles autour de ce peuple, après des centaines d'années. Et voilà, la liberté arrive, la libération arrive. Je t'ai répondu au cœur de l'orage. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Meriba. Et là, on voit la transition. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Je t'ai conduit dans le désert. Et je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Meriba. Pause. Mais oui, il faut prendre une pause là. Il faut prendre une pause et réfléchir. Ok, Meriba, c'est quoi l'histoire de Meriba? Qu'est-ce qui s'est passé à Meriba? Parce que jusque-là, c'était le premier point, c'était une ordonnance à accomplir. Le deuxième point, c'était une délivrance. Se souvenir d'une délivrance. C'était le deuxième point. Le troisième point, on y arrive, une provision qui fait réfléchir, mais aussi un manque de confiance à ne pas reproduire. Qu'est-ce qui s'est passé à Meriba? Mais la Bible nous dit en Exode 17, bon, le mot Meriba, ça veut dire contester. Contester. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je vous lis en Exode 17, toute l'assemblée des Israélites partie du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Et ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire !» Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants, mes troupeaux ?» Et Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lancer des pierres. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve. » Symbole d'autorité, symbole d'autorité dans la vie de Moïse et par rapport à l'Éternel. Celui avec lequel tu as frappé le fleuve et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Meriba parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Alors, il y a une pause ici dans le psaume. Oui, il faut revenir à l'époque, il faut se souvenir de l'histoire. Oui, ils sont sortis de l'Égypte avec une grande joie, mais quand le Seigneur commence à les conduire et à montrer des grands prodiges, à un moment donné, ils se trouvent dans le désert sans eau et ils commencent à murmurer contre Moïse, contre l'Éternel. Ils ont contesté. Et qu'est-ce que nous voyons arriver? Mais nous voyons deux grandes choses ici. Deux grandes choses. Il faut reculer. On est toujours sur le point précédent. Merci, c'est gentil. Toujours sur une provision qui fait réfléchir. Une grande chose s'est produite, une grande provision de la part de Dieu quand Moïse a frappé le rocher et l'eau est sortie. Une grande provision, ça fait réfléchir, non? Comme la mer Rouge, comme les autres prodiges et miracles, ça fait réfléchir, une provision incroyable. Mais en même temps, un manque de confiance à ne pas reproduire. Le psalmiste nous dit, souvenons-nous des grandes choses que Dieu a fait, mais souvenons-nous aussi de comment le peuple d'Israël a réagi. Souvenons-nous qu'ils ont manqué de la confiance en Dieu à un moment donné. Souvenons-nous pour ne pas reproduire la même chose. Souvenons-nous de cette grande provision de la part de Dieu. Il est capable de tout faire. Mais souvenons-nous que quand les choses sont difficiles, de lui faire confiance. Faites-lui confiance. Faisons-lui confiance. Même dans le désert, même devant l'obstacle, faisons-lui confiance. Donc on a vu déjà trois points, une ordonnance à accomplir, une délivrance, se souvenir d'une délivrance, et puis une provision qui fait réfléchir, mais aussi un manque de confiance à ne pas reproduire. Dans l'adoration, mes amis, il y a toujours l'élément de confiance en Dieu. Comment peut-on louer quelqu'un en qui nous ne confions pas? L'épisode de Meriba montre très bien que les Israélites usaient Dieu pour ce qu'ils pouvaient en tirer. L'attitude de leur cœur n'était pas au point de se livrer entre les mains de l'Éternel, mais plutôt de voir comment ils pouvaient ajouter Dieu à leur vie. Et ça ne marchera jamais, mes amis. On ne peut pas juste coller Dieu à nos vies et dire, oh, on est chrétien. Parce qu'on a collé Dieu à nos vies, parce qu'on parle le langage chrétien. Ah non, ça ne marche pas. Il faut une véritable transformation du cœur pour marcher avec le Seigneur, pour être chrétien, pour devenir ce qu'il a déterminé que nous deviendrons. Au lieu de laisser leur vie être envahie par le Créateur, le grand libérateur, ils décidaient de se plaindre, de murmurer, de critiquer, de bouder, de rouspéter. À peine sortis de l'Égypte, et ils commencent. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était pas encore transformé en tant que communauté, en tant que peuple. Alors, continuons dans le passage. Qu'est-ce que le psalmiste nous dit comme nous sommes en train de décortiquer ce passage et ces versets? Écoute, ô mon peuple. Écoute, ô mon peuple. Je t'avertirai. Ah, si seulement tu m'écoutais, Israël, tu n'auras chez toi aucun autre Dieu, tu n'adoreras aucun des dieux étrangers, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre largement ta bouche, je la remplirai. Maintenant, on arrive au prochain point. Un commandement à obéir et une promesse à saisir. Vous pouvez avancer le slide. Un commandement à obéir et une promesse à saisir. C'est quoi? Non, reculez. Un commandement à obéir et une promesse à saisir. Voilà, on voit un commandement. Le verset 11 est une promesse au peuple à la fin de ce petit passage. Le psalmiste commande l'adoration au début du psaume et il répète l'instruction d'obéir et suivre le seul vrai Dieu ici, au milieu du passage, au milieu de son écrit. Il répète l'instruction d'obéir et suivre le seul vrai Dieu. Mais on voit que cet ordre est lié à la promesse qu'aussi largement qu'on ouvrira la bouche, autant l'Éternel la remplira. la décision de l'adorer est combinée avec son désir d'être loué. Et donc, il va faciliter cette adoration par le fait de remplir la bouche qui le loue. Et encore, avec encore des paroles de louange. Et le cycle est perfectionné ainsi. Au fur et à mesure qu'on loue, autant c'est facile de louer. Si on dicte à notre cœur, non, je vais louer le Seigneur. Et on commence à le louer, mais au fur et à mesure qu'on le loue, au fur et à mesure, ça devient plus facile de le louer. Et de nous détourner de ces pensées négatives, sombres de l'ennemi, qui veut nous garder dans un état de confusion, de dépression. Alors, le cycle est perfectionné ainsi. C'est ainsi que l'adoration s'installe dans la vie du chrétien. Et que la joie naît. Ceci est la joie de l'obéissance. C'est pour notre bien. C'est sage. Et c'est quelque chose qui répond à la conception de notre nature humaine créée à l'image de Dieu. Nous pouvons même dire que le but ultime de notre obéissance, c'est la joie. L'accomplissement de connaître le Dieu qu'on a été créé à aimer avec tout notre être vivant. Donc, plus j'obéis, plus je deviens spirituellement vivant. Et plus je deviens le moi qu'il m'a fait devenir, qu'il veut que je devienne. Donc je m'insère dans une attitude de joie, d'adoration, de louange, et au fur et à mesure que je m'insère, que je m'installe dans cette attitude, alors sa présence devient de plus en plus réelle pour moi. C'est un commandement à obéir, mais en même temps, c'est une promesse à saisir. Ah oui, je vois, Seigneur, je t'obéis, je te loue, et au fur et à mesure que je le fasse, tu remplis ma bouche avec encore des louanges et d'adoration. Et ainsi de suite. Et je conduis ma vie ainsi. Et ma vie devient une vie débordante de joie. Et là où je vais, je touche les gens et ils reconnaissent qu'il y a quelque chose de différent en moi. Ils reconnaissent une paix, une joie, une grâce. Ils reconnaissent et commencent à poser des questions. Et là, nous aurons la possibilité de partager le pourquoi derrière notre joie, le pourquoi derrière notre croyance en Dieu. C'est un commandement à obéir, mais aussi une promesse à saisir. Puis si nous continuons dans le passage, nous arrivons au verset 12. Et là, nous allons voir une leçon à retenir. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. C'est comme Dieu qui parle à un moment donné dans ce psaume. Hein? On voit Dieu qui parle. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai laissés aller selon leur cœur obstiné. Et ils n'ont fait que suivre leurs propres idées. On peut amener quelqu'un à boire, mais on ne peut pas forcer la personne à boire. On peut montrer l'eau vive qui est Jésus mais on ne peut pas forcer quelqu'un à accepter le Seigneur ou bien à marcher avec lui tous les jours. Il s'agit du cœur humain. Il s'agit de la volonté humaine. Nous devons tous décider nous-mêmes. Quand je m'obstine, je bloque l'œuvre de Dieu dans ma vie. Quand je suis mes propres idées au lieu de celles du Maître, je me prive de ses bénédictions et surtout l'intimité avec lui. Ce sentiment qu'il est là avec moi en tout temps. On peut discerner quand les gens suivent leur propre chemin, quand ils vont dans la direction opposée que celle qui mène au Seigneur. Nous voyons, en tant que chrétiens, nous discernons, nous voyons les dégâts. Ils tournent souvent en rond, ils expérimentent des relations brisées, ils perdent un sens dans la vie, ils se perdent et souvent sans se rendre compte qu'ils sont perdus. Mais nous le discernons parce que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous a éclairés, qui nous a transformés. Alors c'est pour cela que nous, quand nous discernons et les gens s'approchent de nous pour nous parler de leurs problèmes, de leur vie, des situations, nous pouvons donner des conseils bibliques, nous pouvons donner des sages conseils parce que nous savons en qui nous avons cette paix, cette joie, cette transformation, ce salut. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai laissés aller selon leur cœur obstiné. Ils n'ont fait que suivre leurs propres idées. Une leçon à retenir. Et ça nous mène à la fin de notre psaume aujourd'hui, à partir du verset 14. Et le ton va changer encore. Oh, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait sur les voies que j'ai prescrites, je ferais en un instant plier tous ses ennemis, je tournerai ma main contre ceux qui les oppriment, et ceux qui haïssent l'Éternel lui seraient assujettis. Le temps de leur soumission durerait toujours. Je nourrirai Israël de fleurs de froment, et je le rassasierai du miel d'abeille sauvage. Une vie avec Dieu est décrite ici. Et c'est une vie à chérir. Une vie à chérir. Dieu redit encore dans ce psaume ses promesses. À maintes reprises, nous voyons les promesses. Il redit ses promesses de provision, de protection, le fleur de froment, le miel du rocher. Le psaume nous quitte avec un ton d'espoir dans le Dieu qui peut tout faire. L'idée d'obéissance donne assurance de ce que l'Éternel va faire pour son peuple. En un clin d'œil, le pliage de tout ennemi, la main du Tout-Puissant contre ceux qui oppriment, la prunelle de son œil. La subjugation complète pour toujours tous ceux qui haïssent Dieu. Ce psaume nous laisse avec un sentiment fort et profond que ce Dieu créateur a le contrôle de toutes choses. dans l'univers entier. Une ordonnance à accomplir. Une délivrance. Se souvenir d'une délivrance. Une provision remarquable qui fait réfléchir, mais aussi un manque de confiance à ne pas reproduire. Un commandement à obéir et une promesse à saisir. Une leçon à retenir et une vie avec Dieu à chérir. Et si on lui cédait passage dans les couloirs de nos cœurs? Et si on s'engageait de manière vraiment intentionnelle à l'adorer avec tout ce que nous sommes? Alors là, nous serons une force sur la terre, une force spirituelle sur la terre pour convaincre, pour amener les gens à Christ, pour vivre la vie abondante et remplie de joie avec Dieu. Voici ce que je vois dans ce psaume aujourd'hui, que nous pouvons retenir, que nous pouvons prendre pour nous pendant cette semaine, ce mois à venir, peut-être revoir, méditer et reméditer ce passage, à revoir ces morceaux qui nous parlent, qui nous font réfléchir, qui nous font se souvenir aussi des grandes histoires bibliques et aussi de ce que Dieu fait en nous et à travers nous.